acceptable par ses critères de preuve. Alors que les Nisnas, par exemple, ou les Griffons et le Phénix sont des légendes. Massoudi nous apprend beaucoup de détails sur la vie des ghouls. Puisque leur forme et leurs instincts les isolent de tous les êtres, dit-il, elles recherchent les solitudes les plus sauvages et ne se plaisent que dans les déserts. Par le corps, elles tiennent à la fois de l'homme et de l'animal le plus brutal. Ce qui intéresse le naturaliste qu'est Massoudi, c'est de comprendre comment naissent et se reproduisent les ghouls, s'il s'agit bien d'animaux. Les rapports charnels avec des humains au milieu du désert sont envisagés comme une possibilité. Mais la thèse qu'il privilégie est celle de savants des Indes, qui considèrent que les ghouls sont une manifestation de l'énergie de certaines étoiles quand elles se lèvent. Un autre congressiste se mêle à notre conversation. Il a l'air très intéressé par les possibilités d'accouplement entre êtres humains et ghouls. C'est un Français plutôt sympathique, du nom de Marc Faugier, qui se définit avec beaucoup d'humour comme un spécialiste de l'accouplement arabe. Sarah se lance dans des explications assez terrifiantes sur les charmes de ces monstres. « Au Yémen, dit-elle, si un homme a été violé par une goule dans son sommeil, ce qu'on détecte par une forte fièvre et des pustules mal placées, on utilise une thériaque composée d'opium et de plantes apparues au lever de l'étoile du chien, ainsi que des talismans et des incantations. Si la mort survient, il faut brûler le corps dans la nuit suivant le décès pour éviter la naissance de la goule. Si le malade survit, ce qui est rare, on lui tatoue alors un dessin magique sur la poitrine. En revanche, aucun auteur ne décrit apparemment la naissance du monstre. Les ghouls, vêtus de haillons, de vieilles couvertures, cherchaient à dérouter les voyageurs en leur chantant des chansons. Ce sont un peu les sirènes du désert. Si leur visage et leur odeur véritable sont bien ceux d'un cadavre en décomposition, elles ont néanmoins le pouvoir de se transformer pour charmer l'homme égaré. Un poète arabe anté-islamique, surnommé Tabata Sharran, celui qui porte le malheur sous son bras, parle de sa relation amoureuse avec une goule femelle. Au lever de l'aurore, dit-il, elle s'est présentée à moi pour être ma compagne. Je lui ai demandé ses faveurs, et elle s'est agenouillée. Si l'on m'interroge sur mon amour, je dirais qu'il se cache dans les replis des dunes. Le Français a l'air de trouver cela joyeusement ignoble. Cette passion du poète et du monstre me paraît plutôt touchante. Sarah est intarissable. Elle continue à parler sur ce balcon, alors que la plupart des savants s'en retournent à leurs panels et travaux. Bientôt, nous restons seuls, dehors, tous les trois, dans le soir qui tombe. La lumière est orangée. Dernier débris de soleil ou premières lueurs électriques dans la cour. Les cheveux de Sarah brillent. Savez-vous que ce château de Heinfeld recèle lui aussi des monstres et des merveilles? C'est bien sûr la demeure de Hammer l'orientaliste, mais c'est aussi l'endroit qui a inspiré à Sheridan Le Fanu son roman Carmilla. La première histoire de vampire qui fera frémir la bonne société britannique, une décennie avant Dracula. En littérature, le premier vampire est une femme. Avez-vous vu l'exposition au rez-de-chaussée? C'est absolument incroyable. L'énergie de Sarah est extraordinaire. Elle me fascine. Je vais la suivre dans les couloirs de l'immense demeure. Le Français est resté à ses activités scientifiques. Nous faisons l'école buissonnière, Sarah et moi, à la recherche, dans la nuit des ombres des chapelles oubliées, des souvenirs des vampires de la Styrie mystérieuse. L'exposition se trouve en réalité au sous-sol, jusqu'au rez-de-chaussée,